Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La France exprime sa préoccupation sur la situation politique en Tunisie, notamment après la dissolution du Parlement. Paris rappelle son attachement au respect de l'état de droit et à l'indépendance de la justice. L'inquiétude également des associations de défense des droits de l'homme en Tunisie. La présidente d'honneur de la FIDH, Souher Belhassen, sera l'une de nos invitées. Des affrontements hier soir entre deux groupes armés dans la capitale libyenne, des heurts qui ont fait 2 morts et 5 blessés. Le gouvernement du Koweït a démissionné ce mardi, une démission 3 mois après avoir prêté serment. Gouvernement et rebelles au Yémen s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord de cesser le feu, cela 3 jours après l'entrée en vigueur d'une trêve de 2 mois. Ce mardi marque le 41e jour de l'agression russe en Ukraine après la France et l'Allemagne. Lundi, l'Italie, le Danemark, la Suède et l'Espagne ont à leur tour expulsé des dizaines de diplomates russes. Le Kremlin a dénoncé aujourd'hui le manque de clairvoyance européenne. Le mois de Ramadan, regarde votre journal sur les activités proposées par la Grande Mosquée de Lyon et l'Institut français de civilisation musulmane. Nous écouterons son président et recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kaptan. Et à l'occasion du Ramadan, vous entendrez les vœux de l'ambassadeur d'Égypte en France, Alaa Youssef. La France fait part de sa préoccupation après la dissolution du Parlement en Tunisie. Paris rappelle son attachement au respect de l'état de droit et à l'indépendance de la justice. Le Quai d'Orsay souhaite le retour dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal des institutions pour pouvoir répondre à l'urgence économique et sociale en Tunisie. La France qui appelle également l'ensemble des forces politiques du pays à s'engager dans un dialogue inclusif, à éviter toute forme de violence et à préserver les acquis démocratiques du pays. Paris dit se tenir aux côtés des Tunisiens face aux défis auxquels leur pays est confronté. La situation en Tunisie, marquée par la dissolution du Parlement jeudi dernier, inquiète aussi les organisations de défense des droits de l'homme. La Fédération internationale pour les droits humains déplore par ailleurs une menace sérieuse sur la liberté d'association en Tunisie. En cause, un projet de réforme du décret-loi relatif aux associations. La présidente d'honneur de la FIDH, Souher Belhassen.
On est sur le fil du rasoir actuellement. Les défenseurs des droits humains et les organisations de défense des droits humains, mais aussi la société civile en général, qui a été un peu le fleuron de cette révolution et qui a fait avancer réellement dans tous les secteurs la société tunisienne et l'exercice de la politique tunisienne et la démocratie. Cette société civile est aujourd'hui menacée par une nouvelle loi qui est en préparation et qui est à l'exemple des lois égyptiennes sur la question, c'est-à-dire réduire le financement extérieur. Et comme il est facile d'accuser les associations de la société civile d'être en relation avec l'étranger et donc de traîtrise, et cela réduit le financement et donc l'activité de toutes les associations. Le projet de loi est réellement liberticide. C'est aujourd'hui une nouvelle mobilisation pour la société civile contre cette loi. Donc la société civile et la défense des droits humains en particulier sont visées parce que ce qui se passe aujourd'hui suscite évidemment la mobilisation de plusieurs associations, de plusieurs organisations. Qui veulent évidemment garder, en tous les cas, ce qui a été acquis par la Révolution.
Parmi les articles de cette loi, il y a l'article 4 qui mentionne l'interdiction faite pour les associations de menacer l'unité de l'État ou son régime républicain et démocratique. Et vous vous interrogez, bien entendu, sur les notions de menace ou d'atteinte à la sûreté de l'État.
Absolument, parce que c'est large, hein. La définition est extrêmement élastique. Et large. Et donc, on peut mettre tout et n'importe quoi dans cette définition. Donc, il y a déjà des associations qui travaillent sur tous les articles de cette nouvelle loi, qui est réellement une loi liberticide. Et ça mobilise effectivement, le danger se précise, il est clair, ce ne sont plus des paroles en l'air, ce ne sont plus des menaces proférées, ce sont des lois qui aujourd'hui, après le Haut Conseil de la magistrature qui a été dissous et recomposé en fonction des désirata du président de la République, aujourd'hui, on touche à la société civile directement par cette loi.
Quels sont les acquis de la Révolution ? Que reste-t-il de ces acquis aujourd'hui en Tunisie ?
Il reste beaucoup de choses. Là, vous me posez la question sur tout ce que nous avons acquis. D'abord, moi, j'avais un statut peut-être privilégié vu que la correspondance avec les organes étrangers, etc., je pouvais écrire et dire un peu ce que je voulais, mais en prenant les précautions d'usage, je ne m'exprimais pas aussi facilement et aussi clairement. Ça, vous vous doutez bien. Aujourd'hui, réellement, la liberté d'expression est une réalité. Mais elle est menacée tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, il y a des arrestations de journalistes. Tous les jours, il y a des pressions qui se font sur l'exercice du politique. Et même la façon qu'on n'a jamais plus vu, la perturbation des communications, des moyens de communication. Donc, je vous dis, les acquis de la Révolution sont très importants, et d'abord sur la liberté d'expression. Et ça, c'est très important. Ensuite, sur la liberté d'association, de réunion, de manifestation. Tout ce que nous, en tant que société civile, nous avons revendiqué pendant des années avec le régime Ben Ali, nous l'avons exercé pendant 10 ans. Ça, il faut être clair sur cela. Simplement, aujourd'hui, depuis que Qais Saied est au pouvoir, on a des réactions violentes de casser les manifestations, de mettre en prison les manifestants et surtout de traduire des civils devant les tribunaux militaires, ce qui est tout à fait nouveau. Donc, tout cela, on l'a acquis. Les acquis de la Révolution sont extrêmement importants sur les femmes. Alors, là aussi, la loi sur les violences à l'égard des femmes, le fait de sur le code du statut personnel que certains articles aient été revus, etc. Il y a des acquis. Il y a, par exemple, les associations LGBT, etc. s'expriment, peuvent agir. Simplement, ce qui est maintenant menaçant, c'est que la peur revient. On menace, on fait peur, on a connu ça, et là, c'est en train de revenir. Et ensuite, il y a la loi. Ce qui est très important, c'est que maintenant, si on prend les mesures légales pour qu'il n'y ait plus d'exercice des libertés, c'est très grave, effectivement.
La présidente d'honneur de la Fédération internationale pour les droits humains, Souher Belhassen. Des affrontements ont eu lieu hier soir entre deux groupes armés dans la capitale libyenne. Des affrontements qui ont fait 2 morts et 5 blessés. La Libye peine à sortir de plus d'une décennie de chaos politique et de conflits consécutifs à la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Le pays qui, depuis début mars, a 2 gouvernements rivaux, comme cela avait été le cas entre 2014 et 2021 en pleine guerre civile. Le gouvernement du Koweït a démissionné ce mardi, une démission 3 mois après avoir prêté serment. Et cela arrive dans un contexte de nouvelles tensions politiques dans le pays. Le premier ministre koweïtien, le cheikh Sabah al-Khaled al-Hamad, a formé son gouvernement 3 fois en l'espace d'environ 1 an et demi. Il a aussi présenté la démission du gouvernement à 2 reprises, l'une en janvier 2021 et l'autre en novembre dernier. Gouvernement et rebelles au Yémen s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu, cela 3 jours après l'entrée en vigueur d'une trêve de 2 mois dans un pays ravagé par plus de 7 ans de guerre. Le conflit oppose depuis 2014 les forces loyales au gouvernement aux rebelles houthis. Ce mardi marque le 41e jour de l'agression russe en Ukraine. Le président ukrainien, qui s'exprime ce mardi par visioconférence au Conseil de sécurité de l'ONU, un discours après la vive émotion suscitée par les images d'exactions à Boutcha, des massacres de civils imputés aux forces russes. Le ministre français de la Justice a fait savoir aux autorités ukrainiennes qu'elles avaient à leur disposition l'appui opérationnel de la France dans leurs enquêtes concernant les crimes de guerre. Le Kremlin continue de parler de mise en scène. Et après la France et l'Allemagne, lundi, l'Italie, le Danemark, la Suède et l'Espagne ont à leur tour expulsé des dizaines de diplomates russes. Le Kremlin a dénoncé aujourd'hui le manque de clairvoyance européenne. Son porte-parole indique que cela va entraîner inévitablement des mesures de représailles. Le mois du Ramadan, regard sur les activités proposées par la Grande Mosquée de Lyon et par l'Institut français de civilisation musulmane, entretien avec son président et recteur de la Grande Mosquée de Lyon, également président du Conseil des Mosquées du Rhône, Kamel Kaptan.
D'abord, j'aimerais remercier Radio Orient pour le travail qu'elle fait, notamment pour l'information qu'elle apporte durant tout ce mois du Ramadan et les efforts qu'elle fournit pour permettre aux musulmans. Je pense que maintenant Radio Orient est une radio nationale puisqu'elle est aimée dans toutes les régions de France et je tenais effectivement à la remercier pour ses activités et pour les relations qu'elle entretient avec les uns et les autres. Sa part, j'aurais souhaité effectivement apporter à notre communauté les souhaits d'un mois de paix, de ferveur, de piété, de solidarité, de partage. Et nous appelons la communauté musulmane dans ce, de profiter de ce mois, je dirais, intense de spiritualité pour pouvoir se recueillir, pour pouvoir aider, être le plus proche de tous ceux qui souffrent. Aujourd'hui, effectivement, le Ramadan, c'est le mois du partage, c'est le mois de la solidarité, c'est aussi le mois où l'homme est le frère de l'homme, je dirais. Il faut absolument aujourd'hui que les cœurs s'ouvrent compte tenu de la situation qui prévaut au niveau international, compte tenu des difficultés que l'on rencontre, que nous appelons les musulmans à être un peu plus solidaires et aussi être beaucoup plus actifs. Nous sommes dans une période électorale et nous appelons la communauté musulmane aussi à prendre ses responsabilités et à faire en sorte que les échos qui nous reviennent aujourd'hui de part et d'autre, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons et tout ce que aujourd'hui les musulmans peuvent ressentir au travers de ce discours. Les élections arrivent en plein mois du Ramadan et c'est pour ça que j'appelle notre communauté à être des citoyens à part entière pour pouvoir peser par leur vote et faire en sorte qu'ils soient présents dans ces élections. En tous les cas, c'est le vœu que je formule aujourd'hui parce que on ne peut pas concevoir de construire ensemble une société de la façon que certains aujourd'hui nous imposent. La France est un pays d'égalité, un pays de justice, un pays de fraternité. J'estime qu'il est important que les musulmans aussi s'y engagent.
Vous craignez une poussée des extrêmes lors de cette élection présidentielle ?
Je crains effectivement, et nous craignons tous, je pense que les réunions que nous avons eues ces derniers temps, je sens une certaine inquiétude de la part de la communauté musulmane qui, au travers du discours qu'elle entend, au travers des propos qui sont tenus par les uns et par les autres, essentiellement concernant les musulmans, m'inquiète beaucoup. Je pense que la parole s'est plus que libérée aujourd'hui, la parole est devenue un moyen de faire mal aux musulmans qui ressentent cela et qui ne peuvent pas aujourd'hui s'exprimer malheureusement. Mais je pense que c'est pour ça que je les invite à être présents. Être présent lors de ces prochaines élections et d'aller voter, parce que c'est comme ça qu'on peut, qu'une communauté peut être entendue.
Pouvez-vous nous faire part des actions menées par le Conseil des Mosquées du Rhône, la Grande Mosquée de Lyon et l'Institut français de civilisation musulmane que vous présidez à l'occasion de ce mois du Ramadan ?
Aujourd'hui, toutes les mosquées sont des ruches où chacune s'active, et s'active notamment pour organiser les prières, pour faire en sorte que des activités cultuelles puissent se passer dans de bonnes conditions. Je vois que toutes les mosquées font les repas du Ramadan et invitent à leur table tous ceux et toutes celles qui sont dans le besoin. Et moi, je vois à la mosquée de Lyon, hier soir, nous étions presque 400 personnes à venir manger à la mosquée de Lyon. Véritablement, c'était beaucoup de jeunes étudiants, beaucoup de jeunes sans papier qui étaient là malheureusement, qui des gens réfugiés, beaucoup de ces gens-là dont on parle peu, mais qui étaient là pour participer aux offices religieux, les offices de Tarawih dans nos mosquées. Les gens, ils viennent de plus en plus. Ça fait 2 ans que les gens n'ont pas pu être présents dans ces moments importants du Ramadan. Et aujourd'hui, on sent un regain de religiosité de la part des musulmans qui retrouvent cette liberté de pouvoir pratiquer, de pouvoir venir assister aux conférences. Vous parliez de l'IFCM. Nous organisons tous les dimanches après-midi de 14h à 16h des rencontres. Les rencontres du Ramadan, ça fait plus de 20 ans que la mosquée de Lyon organise ces rencontres. Elles donnent la parole à un juif, à un catholique, un protestant, un chiite et un sunnite. La thématique était tout à fait intéressante. Et dimanche prochain, je reçois à l'IFCM l'archevêque de Lyon, le grand rabbin de Lyon, le représentant du protestant, l'imam de la Grande Mosquée de Lyon et un imam chiite. Ce sont ces rencontres qui donnent véritablement le caractère de ce que peut être le mois du Ramadan. C'est le mois de la rencontre, du partage et aussi du dialogue. Et c'est ce dialogue que nous mettons en place tous les dimanches après-midi du mois du Ramadan. Dimanche prochain, le thème de la croyance, c'est être croyant au XXIe siècle, c'est quoi ?
dimanche prochain au 52 rue Guillaume Paradin à Lyon, dans le 8e arrondissement, et c'est ouvert à chacun d'entre nous.
La salle était pleine. Je n'avais jamais vu une salle aussi pleine. J'étais heureux tellement de voir que les gens étaient sensibles à ces questions, à ces rencontres, avec écouter ce que disent les autres, ce que les autres ont à dire. Je pense que c'est très important. Et j'ai vu la satisfaction des uns et des autres, la fierté pour certains d'avoir été présents à ces moments. Je crois que c'est très important. Et c'est nous faisons ça depuis 20 ans. Et je pense que ça commence à être véritablement des rencontres institutionnelles qui sont organisées par la mosquée de Lyon depuis cette époque-là.
Le président du Conseil des mosquées du Rhône, recteur de la Grande Mosquée de Lyon, président de l'Institut français de civilisation musulmane, Kamel Kaptan, et à l'occasion du Ramadan, les vœux de l'ambassadeur d'Égypte en France, Alaa Youssef.
Je souhaite Ramadan Moubarak Karim à tous les membres de la communauté égyptienne et aussi à tous les auditeurs de Radio Orion, arabes et musulmans. Et j'espère que ce mois sacré leur apporte santé, bonheur et prospérité. J'espère aussi que Dieu les comble de ses bienfaits en ce mois sacré qui nous donne l'occasion de réaffirmer les principes de notre religion et surtout la tolérance, la solidarité et le respect d'autrui.
L'ambassadeur d'Égypte en France, Alaa Youssef, il répondait à Loïc Barrière. Mobilisation nationale ce mardi des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ils demandent un véritable statut et une revalorisation de leur métier. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h est Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, soutien du candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.